Radio Okapi.
Le journal, présenté par Jocelyne Moussaoupondé. La résidence GLM de Joseph Kabila, attaquée par un groupe des jeunes ce mercredi. Présente au moment des faits, son épouse Olive Lembe s'est dit choquée de la violation pour la deuxième fois de cette résidence de l'ancien président de la République. Début ce mercredi de l'instruction dans le dossier relatif au concert de Mike Alambay. Deux membres du comité d'organisation sont aux arrêts depuis hier pour homicide involontaire et lésions corporelles. L'invité de ce journal, c'est Jean-Claude Kassomo, coordonnateur provincial du projet de stabilisation et relèvement de l'Est de la RDC, Star Est au Nord Kivu. Il s'agit d'un projet qui consiste à réhabiliter et à construire des infrastructures de base dans la ville et le territoire de Beni. Bonsoir à tous. Commençons ce journal à Kinshasa. La résidence GLM appartenant au sénateur à vie et ancien chef de l'État Joseph Kabila a été attaquée par un groupe des jeunes munis de cocktails Molotov. Ce mercredi, son épouse, qui s'y trouvait au moment des faits, dénonce cette deuxième attaque et en appelle à l'intervention du président Félix Tshisekedi. Olive Lembe Kabila s'est dit choquée de la violation pour la deuxième fois de cette résidence de l'ancien président de la République. Nous allons et personne ne va nous faire fuir de notre pays, le Congo, où nous sommes nés et avons grandi, affirme-t-elle. On l'écoute.
Ils sont venus très nombreux. Il y a quelques images qui pourront témoigner de cette attaque. Ils ont voulu commencer à jeter des cocktails pour d'abord brûler tous les véhicules qui se retrouvent ici à l'extérieur de la parcelle avec intention de forcer le portail pour rentrer jusqu'à l'intérieur de la résidence. Tout ceci est la conséquence de la violation du périmètre sécuritaire de la résidence du président honoraire de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange. Nous allons résister parce que nous sommes dans notre pays. Nous sommes nés ici au Congo, nous avons grandi ici, nous avons étudié ici, nous produisons jusqu'aujourd'hui ici au Congo. Je ne sais pas si ces genres de bandits qui peuvent nous convaincre d'abandonner notre pays. J'interpelle le président de la République actuel. Je suis personnellement contrarié et choqué, puisque ça c'est la deuxième fois que l'on vienne attaquer la résidence pendant ma présence ici.
Notez qu'au moins 5 personnes ont été interpellées par la police pour le bourgmestre de la Gombe. Le groupe à la base de ce désordre aurait commencé ses méfaits plus loin dans une affaire de conflit parcellaire. Écoutez Léopold Manzambi.
L'histoire a commencé d'abord au niveau de l'avenue Ouvira, où il y avait un procès en cours. Une partie avait gagné et il a intéressé les gens des forces de progrès, soi-disant. Finalement, on comprend bien que ce sont les gens qui utilisent ce nom-là pour faire du rabuche. Ils sont entrés dans l'immeuble en train de dévaliser, piller. Voilà, la police est venue pour le disperser. En le dispersant, maintenant, ils ont pris la route vers la résidence de l'ancien président, donc le sénateur à vie, Joseph Kabila. Ils passaient, comme d'habitude, quand il y a des badauds là-dedans, ils commencent à crier. Alors maintenant, il y a affrontement entre les gardes qui étaient là et avec eux, les gardes qui les ont conduits pour continuer leur chemin. Donc il n'y a rien eu de grave, à part les sommations par les gardes qui étaient postés à la résidence de l'ancien président. Pas de blessés, pas de morts. À partir de l'avenue Ouvira, on avait déjà interpellé quelques personnes et là aussi on a interpellé deux. Donc on attend que la police nous dise les conclusions de leur enquête. C'est calme, on peut circuler facilement, sans problème. Pour besoin de sécurité, on a demandé à ce que les véhicules ne passent pas devant la résidence de l'ancien président.
Au Nord Kivu, les activités commémoratives du génocide congolais ou génocoste débutent demain jeudi 1er août 2024. Une attitude de deuil est recommandée durant ce moment de commémoration. Le drapeau national devra demeurer en berne et un culte écuménique organisé dans toutes les entités de la province. Chris Moukand nous en dit plus.
Ces instructions sont contenues dans un télégramme du gouverneur militaire de province, le général-major Peter Chirimwami, adressé aux maires de ville, aux administrateurs de territoire, aux chefs de chefferie et de secteur, et à tous les membres du Conseil provincial de sécurité. Ce télégramme relaie le message du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, daté du 27 juillet dernier, qui enjoint les gouverneurs de 26 provinces d'organiser des manifestations commémoratives du génocide des Congolais ou génocoste à partir du 1er août de cette année. Le génocide des Congolais, dit Genocoste, vise à lutter contre le silence, la banalisation, le déni de justice et l'oubli quant aux crimes graves commis en République démocratique du Congo. Au Nord Kivu, un cimetière du Génocoste a été créé à Kibati, dans le territoire de Nyiragongo. Il y a enterré les corps des 35 victimes du bombardement par les rebelles du M23 du camp des déplacés internes de Mugunga au mois de mai dernier. Il est prévu ce vendredi 2 août 2024, date commémorative du Génocoste, l'inhumation des 9 autres corps des personnes décédées entre le 15 et le 16 juillet à Bweremana, dans le territoire de Masisi, une fois de plus victime de bombes en provenance du camp des rebelles du M23. Chris Mukand, Goma, Radio Kapi.
Dans l'entretemps, la situation est restée tendue dans la matinée de ce mercredi sur l'axe routier Katoï, quartier Kasika, au nord de la ville de Goma. Des manifestants ont barricadé la route en signe de protestation suite au meurtre d'un jeune dans la soirée de mardi par des hommes non identifiés. Le conseil communal de la jeunesse de Karisimbi déplore ce meurtre qui serait, selon ses statistiques, le 15e depuis le début de ce mois. Bernard Danyangi.
Ces manifestations se sont poursuivies ce mercredi matin. Entre 6h et 10h locales, l'axe routier Afiabora-Katoï, station Mutinga, est resté barricadé par des pierres jetées sur la chaussée dans cette partie de la commune de Karisimbi. Selon le conseil de la jeunesse de la dite commune, c'est peu après le meurtre de ce jeune nommé Gaël Alimassi, âgé de 30 ans, autour des 18h locales, hier mardi, que ces manifestations ont commencé. Ce jeune homme a été tué par balle chez lui, sur l'avenue Mouesso, quartier Kasika, par des bandits armés vêtus en civil, et qui, selon des sources sécuritaires locales, ont abandonné leurs armes avant de se volatiliser dans la nature. La circulation a pu être rétablie par la police. Pour sa part, le conseil communal des jeunes déplore cet énième cas de meurtre, qui porte selon ses statistiques à 15 le nombre de personnes tuées par des bandits armés dans différents quartiers de la commune de Karisimbi durant ce seul mois de juillet. Cela aux côtés des cambriolages des maisons, enlèvements, braquages et autres exactions envers des civils par des hommes armés portant parfois une tenue militaire. Goma, Bernard Nyangi, Radio Kapi.
La coalition pour la promotion et la protection de droits économiques, socio-culturels, DESC, salue la signature de l'accord de cessez-le-feu entre Kigali et Kinshasa sous l'égide du chef de l'État angolais, João Lourenço. Le coordonnateur général de cette organisation citoyenne, Jean Bosco Puna, l'a dit dans un entretien accordé à Radio Kapi. Il a cependant encouragé les belligérants au respect de cet accord qui, selon lui, permettra de pacifier la partie orientale du pays. En Ituri, deux militaires tués, dont un major, et des blessés parmi les FARDC. C'est les bilans provisoires des attaques simultanées des éléments armés qui appartiendraient au groupe d'autodéfense Zaïre, aux positions de la force navale à Kasseni, Chomia et Sabé sur le littoral du lac Albert. Selon le gouverneur de province, ces miliciens ont été mobilisés par des ennemis de la paix pour déstabiliser cette partie de la province en frontière lacustre avec l'Ouganda. D'autres sources sur place parlent plutôt d'un conflit du pouvoir qui opposerait deux unités de la force navale. Martial Kizabiamungu.
C'est vers 3h du matin que des tirs nourris en armes lourdes ont été attendus à Kasseni, Chomia et Sabé, trois centres commerciaux situés sur les littorales du lac Albert à moins de 60 km au site est du Bounia. Selon les gouverneurs des provinces, des jeunes du groupe armé Zaïre se sont organisés pendant plusieurs mois pour attaquer les positions de l'armée dans ces entités pour déstabiliser cette région. Le lieutenant général Johnny Luboya Kanchama.
C'est le Zaïre qui a été mobilisé pour acheter les armes. Et ce matin, ils ont attaqué nos positions. Ces gens-là veulent encore déstabiliser le littoral. Et bon, nos hommes se sont bien comportés. Pour le moment, la situation est sous contrôle.
Au cours de ce combat, un major responsable de la force navale à Chobia, un premier sergent sont morts et trois autres militaires grièvement blessés, indique le commandant des marins au lac Albert. D'autres sources sur place ne confirment pas cette version des autorités. Elles parlent plutôt d'un échange de tirs entre deux unités marines qui seraient opposées à la nouvelle mise en place dans la force navale au lac Albert. Pour le moment, l'armée dut poursuivre les miliciens Zaïre qui se sont retirés dans la concession promise qui appartiendrait à l'ancien président de la CENI, Corneille Nangaa. La route Kasseni-Chomia reste bloquée à tout passage. Bounia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Et dans la province du Tanganyika, la société civile du territoire de Manono dénonce la tracasserie de services de l'État sur certains axes routiers. C'est notamment sur l'axe Manono Kabongo et l'axe Manono-Lubumbashi où plusieurs barrières sont érigées. Cette structure l'a fait savoir hier mardi à Radio Okapi. Le passage à chaque barrière est conditionné par le paiement d'une certaine somme d'argent, déplore la société civile. Le point avec Paula Munanga.
D'après le porte-parole de la société civile de Manono, au moins 9 barrières sont érigées sur l'axe Manono-Kabongo en passant par le village Kitanda. C'est entre autres au niveau des villages Kasoloka, Kaziba. Et d'autres barrières sont érigées dans les secteurs Kamalondo, précise l'abbé Moïse Kilouba, porte-parole de la société civile de Manono. Ce dernier ajoute que des services de l'État exigent de l'argent à chaque passage sur ces multiples barrières. Face à cette situation, la société civile exhorte le gouvernement provincial du Tanganyika de supprimer ces barrières. Abbé Moïse Kilouba.
Ils sont obligés de payer soit de 5 000 à 10 000 francs pour les camionneurs, pour les motards et payer 2 000 francs par barrière. C'est vraiment une sorte de tracasserie inutile que le gouvernement provincial s'implique comment on peut alléger la souffrance de cette population.
En revanche, l'administrateur du territoire intérimaire de Manono annonce qu'il n'y a pas de tracasserie. Donatien Ngoïkasongo précise qu'il y a des points de contrôle sur les axes routiers. D'après lui, il y a des services de perception et des services de sécurité qui ont érigé des barrières avec l'autorisation de la province. L'autorité de Manono ajoute que les services illégaux qui tracassaient la population sont déjà démantelés il y a plusieurs mois. Kalemi Polemunanga, Radio Okapi.
Rendons-nous au sud Kivu, où il y a eu rencontre hier à Bukavu entre les entreprises minières opérant dans la province et le gouverneur de province. Au menu, comment harmoniser les activités minières conformément à l'arrêté provincial du 18 juillet 2024, arrêté portant mesure des suspensions des activités dans les sites miniers sur toute l'étendue de la province du sud Kivu. À quoi cette rencontre dite de clarification a-t-elle débouché, Jean Kassami?
La réunion dite d'information et d'échange afin de faire un état des lieux du secteur minier au site Kivu a été convoquée avec pour objectif de contribuer au développement de la province du site Kivu grâce aux moyens générés à travers les activités d'exploitation minière. C'est ainsi que le gouverneur a communiqué une série de mesures auxquelles les sociétés et autres exploitants miniers doivent désormais se conformer. Chaque entreprise doit installer obligatoirement un bureau de représentation au chef-lieu de la province, signer un acte d'engagement à la réhabilitation des infrastructures publiques, respecter les cahiers des charges soumis par les communautés locales, contribuer à la relance des activités agricoles, signer une charte de protection de l'environnement, laisser aux autorités étatiques libre accès dans des sites miniers, interdire aux sociétés minières d'importer les carburants et tous les lubrifiants dont il faut acheter tout sur place, aussi et enfin payer régulièrement les taxes autorisées au niveau local, provincial et au gouvernement central. Jean Kassami, Bukavu, Radio Okapi.
Dans la province de la Tchopo, les communautés des pêcheurs ont reçu du ministre de la Pêche et l'élevage des intrants et autres matériels pour améliorer leur production. C'était hier à l'esplanade des chutes au Aguenia en présence des ministres de l'Environnement, de la Jeunesse et Nouvelle Citoyenneté ainsi que du vice-gouverneur de province. Une occasion pour Jean-Pierre Chimanga, ministre des tutelles, d'appeler les pêcheurs au respect de la réglementation en vue de faire bénéficier aux générations futures les ressources halieutiques des cours d'eau de la région. Un reportage de Jacques Mkonkolé.
Les filets, les bobines, les hameçons font partie de ces intrants. À cela, il faut ajouter certains matériels comme des réfrigérateurs et des moteurs hors bord. Ceci devra contribuer notamment à la diminution de l'importation des produits halieutiques, à l'amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle de la population congolaise. Jean-Pierre Chimangabwana.
Pour y parvenir, des réformes profondes de changement des mentalités et plusieurs autres préalables doivent être mis sur pied. Notamment, une forte sensibilisation des communautés de pêcheurs dans la gestion responsable des eaux continentales et transfrontalières. Une intense vulgarisation au code de bonne conduite.
Au-delà de la satisfaction due à cette dotation, l'autorité municipale plaide pour la réhabilitation de ce site touristique qui a perdu de toute sa splendeur. Saïdi Kankolongo, bourgmestre adjoint de la commune Kisangani.
La chute Wagenya n'attire plus. Elle a même perdu tout ce qui faisait d'elle un site touristique. C'est ici l'occasion de lancer un vibrant appel pour l'aménagement et pourquoi pas la modernisation modernisation de ce site afin de lui redonner sa vraie valeur de jadis.
Qu'à cela ne tienne, le respect rigoureux des périodes de fermeture et d'ouverture de pêche et l'abandon des mauvaises pratiques qui vont jusqu'à la destruction systématique des zones d'effrayeur sont vivement recommandés par le ministre Jean-Pierre Chimanga. Jacques Mkonkole, Kisangani, Radio Okapi.
En justice, le parquet de grande instance de Kinshasa-Gombe vient de débuter ce mercredi l'instruction préjuridictionnelle dans le dossier relatif au concert de l'artiste de gospel Mike Kalambay. Sur instruction du ministre de la Justice, deux présumés auteurs d'homicide involontaire et lésions corporelles selon le parquet, à savoir le journaliste Joël Kadendanga, chargé de la communication de ce concert, et l'artiste Aristote Nzuzi, directeur technique de la société Majabu Gospel, ont été arrêtés hier mardi et apparaissent aujourd'hui au parquet. Celui-ci les accuse de plusieurs failles et négligences dans l'organisation et la production du concert du 27 juillet dernier au stade des Martyrs, ayant causé plusieurs morts et des blessés. Pourquoi n'a-t-on pas prévenu les dégâts en respectant la capacité d'accueil du stade qui est de 80 000 places assises? Quelles dispositions les organisateurs ont prises pour la sécurité à l'intérieur du stade, la sécurité extérieure étant du domaine de la police? C'est autant de questions auxquelles la justice cherche à avoir des réponses. Et puis, la cour militaire de Kinshasa-Gombe a mis fin hier mardi au débat dans le procès contre Corneille Nangaa et consorts. Elle a pris le dossier en délibéré pour rendre son verdict dans 8 jours conformément à la loi. À l'audience publique des conclusions, elle a pris acte des plaidoiries de la défense. Celle-ci a soutenu que le ministère public ne doit pas retenir la violence collective à l'encontre des 5 prévenus présents au procès, étant donné qu'ils ne s'étaient jamais rencontrés auparavant, si ce n'est que dans les installations de renseignement militaire. Selon l'un des avocats de ces prévenus, la défense a essayé de démontrer l'absence des preuves matérielles pouvant culpabiliser ses clients, notamment Basséane Nanga, l'oncle de l'ancien président de la CENI et président du mouvement politico-militaire Alliance Fleuve Congo, AFC. Maître Peter Ngomou revient ici sur la quintessence de ses plaidoiries au micro de Jeff Ngoy.
Par rapport à chaque prévenu, commençant par Nanga, il a été arrêté tout simplement parce qu'il s'appelait Nanga. Au-delà de ça, il n'y a aucun autre élément qu'on peut ajouter. J'ai vu effectivement aussi les mandats de perquisition. On n'a pas repris la parcelle où les militaires sont allés pour arrêter le sieur Nanga Ritas. Donc, quelque part, c'est peut-être un abus lorsqu'on l'a arrêté. On a pris son téléphone et il a dit, vérifiez, vous ne trouverez pas les contacts ni de Corneille Nanga. Nous n'échangeons pas avec lui. C'est mon neveu. Il fait ce qu'il fait. Moi aussi, je me bats pour ma vie. Et par rapport aux autres prévenus, il a été clairement établi que les 5 prévenus se sont juste retrouvés ensemble à la demi-heure. C'est le jour où on les ramenait à l'auditorat qu'ils se sont vus. De tous les temps qu'ils ont passé à la demi-heure, ils ne se sont jamais vus. Et pour preuve, vous ne trouverez même pas un PV de confrontation entre l'un ou l'autre prévenu. Donc, nous avons essayé en fait de démontrer les choses. Ils n'ont pas possédé d'actes matériels. Il n'y a pas eu de violence collective.
Actualité internationale. En Centrafrique, la variole du singe, maladie contagieuse, provoque la psychose parmi les populations. Le ministère de la Santé a appelé les Centrafricains au respect des règles d'hygiène tout en mettant en place des mesures pour barrer la route à ces virus très virals, car 9 cas ont été détectés dans la capitale Bangui en une semaine, mais aucun décès n'est à déplorer.
L'invité.
Notre invité est le coordonnateur provincial du projet de stabilisation et relèvement de l'Est de la RDC, Star Est, au Nord Kivu. Il s'agit d'un projet qui consiste à la réhabilitation de la voirie urbaine ainsi que des certaines routes des dessertes agricoles. Le projet va également procéder à la construction des écoles publiques, des structures de santé et des adductions d'eau potable en ville et territoire de Béni. Jean-Claude Kassomo, coordonnateur provincial de Star Est et au Nord Kivu, s'entretient à ces sujets avec Marc Maroufimbo.
Monsieur Jean-Claude Kassomo, bonjour.
Bonjour.
Pouvez-vous nous donner un aperçu général sur le projet que Star Est met en place dans la région de Béni?
Comme vous avez dit, c'est un projet financé par la Banque mondiale à hauteur de 250 millions pour une durée de 5 ans qui a 4 composantes essentielles. La première composante, c'est améliorer la participation communautaire à travers les infrastructures économiques de base, la construction, la réhabilitation, mais aussi améliorer la participation communautaire, la planification communautaire à travers le comité local de développement. La deuxième composante porte sur les travaux à haute intensité de main-d'œuvre, mais aussi les activités génératrices de revenus. Et la troisième composante, ça porte sur l'appui aux administrations provinciales à travers le mécanisme d'accroissement des revenus, mais aussi le renforcement des capacités. Et la quatrième composante, c'est par rapport à la gestion, mais aussi un volet de la recherche.
Quelles sont les zones qui sont visées par ces projets?
Pour tous les pays, ce sont les provinces du Nord Kivu, du Sud Kivu et de l'Ituri. Mais pour la province du Nord Kivu, ce sont les territoires de Lubero, territoire de Beni, la ville de Beni, ainsi que le territoire de Walikale, Masisi et Rutshuru. On va y intervenir progressivement. Mais pour les entités territoriales décentralisées, notamment la ville de Goma, la ville de Beni, et la ville de Bunia et la ville de Bukavu. Ce sont les trois dans lesquels on va intervenir. Au total, c'est plus ou moins 120 000 comme bénéficiaires directs. Mais pour les bénéficiaires indirects, c'est autour de 3 300 000 qui vont bénéficier de ce projet. Mais les bénéficiaires directs, c'est autour de 120 000. Notamment pour la deuxième composante, 35 000 pour les travaux intensifs de main-d'œuvre et 85 000 pour les activités génératrices de revenus, en plus de 880 communautés qui vont bénéficier, notamment 430 communautés qui vont bénéficier des infrastructures économiques de base en termes d'écoles, centres de santé, addiction d'eau. Et à côté de cela, 450 communautés dans lesquelles on va puiser les 120 000 bénéficiaires directs, notamment 35 pour les timons, travaux intensifs de main-d'œuvre et 85 000 pour les activités génératrices de revenus, plus les bénéficiaires indirects. C'est pourquoi on disait autour de 3 300 000 bénéficiaires de ce projet.
Monsieur Jacques-Claude, si on peut avoir une idée sur les activités annexes de ces quatre composantes que vous venez de faire mention.
Bon, les activités annexes, comme on a dit, pour la première composante, il y a la construction des écoles, des centres de santé, mais aussi dans cette composante-là, nous allons appuyer les communautés à travers leur comité local de développement, avec renforcement des capacités pour les aider à mettre à jour leur plan de développement. Pour ce qui concerne la deuxième composante, au-delà des travaux haute intensité de main-d'œuvre, pour lesquels ceux qui vont être tenus dans le projet pourront bénéficier de 4 dollars par jour, notamment 3 à 1, qu'ils pourront économiser, épargner, qu'ils pourront recevoir après une petite formation. Il y a, pour ce qui concerne les activités génératrices de revenus, ceux qui seront retenus, les 85 000 là, ils vont bénéficier de 400 dollars en deux mensualités, 200 et 200, et avec une petite formation sur comment monter un plan d'affaires qui pourront les aider à monter des petites activités génératrices de revenus, qui pourront continuer même à la fin du projet. Pour la troisième composante, nous allons appuyer les entités territoriales décentralisées à accroître leurs recettes. Mais ils auront aussi des appuis, des petits financements en termes de construction et réhabilitation des infrastructures qui mobilisent les recettes au niveau des provinces, mais aussi en termes d'appui, en termes d'ordinateurs dans le cadre de ces projets, en termes de renforcement de ces capacités, pour qu'ils soient redevables vis-à-vis de la communauté, pour savoir si nous allons les appuyer à accroître les revenus, il faut aussi que nous puissions aussi les appuyer pour qu'ils soient redevables. Ces revenus-là qui vont augmenter, comment ils vont les utiliser, ils doivent rendre compte à la population par rapport à l'utilisation.
Et qu'attendez-vous de la population, des leaders communautaires ainsi que des autorités locales pour la réussite de ces projets?
Nous attendons beaucoup. Nous avons insisté que c'est un projet communautaire. Ça veut dire que c'est la communauté qui doit s'impliquer, qui doit s'approprier. Jamais nous, à Goma, là-bas, nous allons dire que non, dans la commune de Béou, nous allons prendre autant de personnes, ou bien nous allons prendre tel, tel, X, Y, non. Ce sont les communautés là, à travers leur comité local de paix et de développement, jusqu'au niveau des territoires, au niveau des villages, qui vont chaque fois remonter les projets, pour ce qui concerne les projets socio-économiques de base. Mais pour les vulnérables aussi, c'est avec eux que nous allons travailler pour identifier. Nous allons travailler avec le PDRCS pour identifier les ex-combattants. Donc, nous attendons des communautés l'appropriation. C'est leur projet, ce n'est pas notre projet.
Jean-Claude Kassomo, merci.
Je vous en prie.
Merci à vous, Jean-Marc. Merci à vous, Marc Marofimbo. Et Jean-Claude Kassomo, c'est avec cet entretien que nous mettons un terme à ce journal mis en onde par Jean-Claude Ntiala, Jude Bilanda et Pelé Kipela l'ont coordonné. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis.